l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Présence en ce mardi particulièrement ensoleillé, particulièrement chaud, voire même très chaud. Nous sommes heureux de vous accompagner. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Je vous préviens, on fera des pauses fraîcheurs dans cette émission.
Ah bah volontiers.
À tous les quarts d'heure.
Je cherche un marchand de glace, il n'y en a pas.
Ah bah,
on pourrait avoir un petit stand de glace dans les studios. Mais bon.
Exactement, je crois qu'un des stagiaires est allé sur place d'ailleurs.
Exactement, un reportage que vous pourrez entendre, non pas aujourd'hui, mais probablement demain ou après-demain, puisque notre stagiaire Giuseppe est allé à la rencontre des marchands de glace dans les rues de Lourdes.
Voilà, avec cette journée qui est particulièrement chaude, hein, même très chaude. Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous hydrater, évidemment, et de rester au frais tant que possible. Dans cette émission, Anne-Rose Jankovic, comme chaque semaine, on évoquera l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Hein.
Oui, ça sent l'été. Quelques petites propositions déjà de découverte de notre patrimoine religieux, notamment quelques rendez-vous aussi pour cet été à noter. Et puis le reste, eh bien, vous le découvrirez dans le bulletin tourisme qui s'apprête à sortir.
Voilà, plus de 200 propositions, hein, c'est ce que j'ai noté. Hein.
Oui, alors peut-être pas 200 dans le journal, mais en tous les cas, il y en a plus de 200 proposées partout dans les vallées de la Bigorre.
Dans cette émission, direction Tarbes, avec un commerçant que vous avez rencontré dans les rues de Tarbes.
Et oui, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, la ministre Françoise Gatel était à Tarbes et notamment a pris la parole sur l'importance de redonner de la vie au cœur de la ville, notamment grâce au commerce. Et bien moi, aujourd'hui, je donne la parole à un commerçant qui met la clé sous la porte parce que les clients sont partis en périphérie ou sur leur smartphone.
On écoutera son témoignage et puis nous parlerons des routes départementales dans le département des Hautes-Pyrénées.
Oui, est-ce que les routes sont refaites dans le département des Hautes-Pyrénées en fonction du circuit du Tour de France? La question me titillait, je suis allée la poser à Bernard Duclos, il est le directeur des routes du département des Hautes-Pyrénées.
Et puis dans cette émission, on parlera de Lourdes avant les apparitions avec les auteurs qui ont séjourné et écrit sur Lourdes. Ce sera avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes.
Quelle belle émission.
Eh bien écoutez, c'est pas mal. Hein.
Voilà. On va se promener.
On pense aux auditeurs. Hein. Voilà, nous sommes donc ensemble jusqu'à 13h. Et puis on n'oublie pas évidemment l'actualité. L'actualité régionale à 12h30 avec le journal. Mais pour le moment, c'est Clémence Roux qui est d'ores et déjà avec nous pour l'essentiel de l'actu régionale avec les titres à la une.
Ce mardi, l'ensemble des départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Lot sont toujours placés en vigilance rouge canicule. L'Aveyron et l'Ariège sont tous deux placés en alerte orange. À Auch, la Croix-Rouge française a doublé ses maraudes pour porter secours aux personnes les plus exposées à la chaleur. Ce sont avant tout des maraudes d'hydratation avec distribution d'eau fraîche, remise à terre et boissons glacées, pendant que deux bénévoles par intervention surveillent les signes de malaise et alertent les secours si besoin. Attention si vous prenez la route de nuit. Depuis hier soir et cependant 4 nuits consécutives, plusieurs portions du périphérique de Toulouse sont fermées à la circulation entre 21h et 6h du matin pour des travaux de Vinci Autoroute. Cette nuit, la fermeture s'effectuera au niveau du périphérique extérieur en direction de Bordeaux, entre Croix-Daurade et Sestières. L'incendie ayant ravagé une trentaine d'hectares de végétation à Nantes a été maîtrisé hier en fin de journée. D'importants moyens ont été engagés dans le sud d'Aveyron, mobilisant 85 pompiers et plusieurs avions bombardiers d'eau au plus fort du sinistre. Pour faciliter le stationnement des vélos en centre-ville de Cahors, deux nouveaux abris vélos ont été installés dans le quartier de Bardenne. Pour en bénéficier, les habitants doivent habiter le Grand Cahors et souscrire à un abonnement annuel de 20 euros. Déjà propriétaire du domaine de Montjoie à Ramonville, près de Toulouse, Hubert Fort s'implante en Tarn-et-Garonne en rachetant le moulin de Moissac. Cet établissement emblématique bâti au XVe siècle est en pleine rénovation pour un coût d'1 million d'euros. Les effectifs devraient passer de 22 personnes aujourd'hui à plus de 25 en 2027. Enfin, les courses hippiques font leur grand retour à Lannemezan. Dès demain, l'hippodrome ouvre les fêtes de la ville avec 3 ateliers et animations gratuites pour les enfants, en partenariat avec la société de course Lannemezan-Luchon.
Merci Clémence Roux. Voilà, ces titres seront développés à 12h30 dans le journal régional. À tout à l'heure.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Comme chaque semaine, on évoque avec vous Anne-Rose Jankovic. Rebonjour, l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Et oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Direction pour débuter le nord du département des Hautes-Pyrénées à Estirac, avec une messe en l'église. C'est Monseigneur Jean-Marc Mika qui va bénir des travaux.
Exactement, ça aura lieu ce 27 juin en l'église d'Estirac. Alors Estirac, c'est juste au-dessus de Maubourguet, dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, à environ à 10 minutes au-dessus de Maubourguet. Voilà, c'est toujours bien de situer, parce que comme nos auditeurs nous écoutent partout en région, il faut quand même un petit peu les aider. À 18h, Monseigneur Mika célébrera donc la messe dans cette église de ce petit village à Estirac, parce qu'il y a là un patrimoine religieux à couper le souffle. L'église a fait l'objet de travaux récemment et c'est à cette occasion que l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Mika, s'y rendra donc cette semaine dans cette église. Eh bien, nous avons donc une nef qui est absolument époustouflante, à en croire les mots de notre responsable des archives et du patrimoine, qui nous explique que déjà rien qu'en passant la porte d'entrée de cette église, eh bien, c'est un émerveillement avec un retable et un tabernacle baroque. Et puis de grandes toiles peintes qui sont dans la nef et qui évoquent notamment l'appel des disciples et les 4 évangélistes. Voilà pour un petit avant-goût, mais si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez vous y rendre à Estirac ce 27 juin et puis sinon vous avez tout l'été pour y aller.
Ce jeudi 25 juin, une journée détente et prière est proposée au sanctuaire Notre-Dame des Asses.
Oui, alors c'est une proposition faite par la paroisse du pays d'Argelès-Gazost, effectivement, avec ce rendez-vous ce 25 juin, une journée détente et prière au sanctuaire de Eas, Notre-Dame d'Eas, et également à Troumousse, c'est dans le pays Toy. Il y aura la messe en la chapelle d'Eas et puis la montée en petit train au cirque de Troumousse. Voilà, le covoiturage est possible au départ d'Argelès-Gazost à 10h le jeudi 25 juin. Il faut évidemment s'inscrire, prévenir de sa participation. Il suffit pour cela eh bien, de contacter l'équipe paroissiale qui propose et qui gère tout cela. Toutes les informations sont sur le site du diocèse et sur l'application Au Clocher, application qu'utilise bien évidemment la paroisse du pays d'Argelès-Gazost. En tous les cas, c'est une journée bien sympathique, conviviale, de prière et de détente, jeudi 25 juin, puisque il s'agit d'aller prier la Vierge Marie dans un de nos beaux sanctuaires.
Voilà, on poursuit avec le 29 juin, cette messe des jubilaires, ça va se passer à Lourdes.
Oui, comme chaque année, une messe est célébrée pour et avec les prêtres et les diacres jubilaires du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ce lundi 29 juin à 11h15 en la basilique du Rosaire au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'est un rendez-vous auquel tous les fidèles du diocèse sont bien évidemment invités pour rendre grâce avec, pour la vie donnée de ces prêtres et de ces diacres.
On va aller un peu plus loin dans l'agenda, direction le 1er août. Pourquoi le 1er août? Parce qu'il y a un pèlerinage à Nouillon avec une belle journée en perspective. Hein.
Exactement, le sanctuaire Notre-Dame de Nouillon est un sanctuaire qui n'est pas très connu encore, mais cela va changer après le 1er août, puisque Monseigneur Jean-Marc Mika, notre évêque, nous invite à vivre un pèlerinage diocésain. Alors Nouillon, c'est tout près de Lannemezan, à 10 minutes environ, quand vous prenez la direction d'Arreau. Je sais que ça vous fait déjà partir en vacances, Gilles. Donc depuis Lannemezan, direction Arreau, et au bout de 10 minutes de route, vous avez le petit village de Montoussé, avec ce charmant sanctuaire de Nouillon, qui est un lieu tout à fait discret, mais très touchant, puisque là, eh bien, depuis des générations, il y a une vraie piété mariale qui se transmet dans les familles, au sein des familles et voilà, avec les habitants, grâce aux habitants de ce village. Vous avez donc rendez-vous le samedi 1er août dès 10h pour prier le chapelet. À 10h30, il y aura la présentation du message de Notre-Dame de Nouillon et puis à 10h45, la messe célébrée par Monseigneur Mika, notre évêque. Donc après cela, il y aura bien évidemment un repas partagée, parce que c'est toujours l'occasion de faire des rencontres et de vivre un temps fraternel. Et puis à 14h, le chapelet dans la grotte, parce que oui, il y a une petite grotte dans ce sanctuaire de Nouillan. Et après le chapelet, il y aura la bénédiction eucharistique à 14h30. Voilà pour cette journée de pèlerinage. Notez-le sur vos agendas, parce que ça y est, on rentre dans l'agenda estival. Hein. Vous avez bien compris qu'on changeait de ton, Gilles, et qu'à partir, à commencer d'aujourd'hui, les rendez-vous d'été démarrent. Donc sortez votre agenda aux pages juillet-août et notez 1er août, on met du fluo, tout ça, on est à Nouillan pour prier avec notre évêque.
Voilà, et tout ça nous amène à parler donc du bulletin du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, le spécial été, le spécial pastoral du tourisme, eh bien, va sortir dans quelques jours.
Ah bah, au moment où je vous parle, il est en train d'être imprimé. Alors, bon, je ne suis pas chez l'imprimeur puisque je suis là, mais enfin, en tous les cas, les choses n'ont jamais été aussi avancées que maintenant.
Ben voilà, on est juste au début de l'été, donc c'était voilà. Il y a deux jours l'été, on est pile à l'heure.
Exactement, et là je vous promets un numéro tout à fait intéressant, puisqu'on donne la parole à tous les acteurs de la pastorale du tourisme dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Ils sont très nombreux, je peux vous dire qu'ils ont vraiment retroussé leurs manches pour vous préparer, vous concocter un été absolument formidable en Bigorre et dans les Quatre-Vallées. Vous avez des rendez-vous partout, des visites d'église, des concerts, des expositions, des balades, des promenades, des pèlerinages, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Voilà, donc dans quelques jours, il sera dans toutes les paroisses, à la Maison Saint-Paul et bien évidemment sur le site du diocèse.
Quasiment 200 propositions, hein, c'est ça à peu
oui,
près,
environ. Alors, elles ne sont pas toutes recensées dans ce journal parce qu'il fait 60 pages, il ne fait que 60 pages. Mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vous invite à consulter le site internet de diocèse pendant tout l'été, catholique65.fr, et puis à vous rapprocher des paroisses aussi qui multiplient les affichage pour vous tenir au courant. En tous les cas, il se passe beaucoup de choses partout. Et moi, je trouve que quand on habite dans les Hautes-Pyrénées, on n'a pas besoin de partir en vacances ailleurs.
Exactement. Il y a énormément de propositions, notamment à Nouillan, hein, effectivement. C'est pas très connu, mais ça donne envie d'aller
mais
voir.
Mais oui, allez-y, exactement. Parce que vraiment, c'est très joli.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci Anne-Rose Jankovic.
Tout de suite, je reste là finalement.
Oui, qu'est-ce que vous voulez ? On fait une pause musicale ou on enchaîne ?
Ah oui, allez, un peu de musique, c'est l'été.
Allez, à tout de suite.
Oh, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh.
Sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Dans cette émission, on parle maintenant consommation et commerce à Tarbes avec vous, André Jankovic.
Oui, je vous emmène rue Brauban à la rencontre d'un commerçant. Il s'appelle Daniel Novaïs de Almeida. Après une longue expérience professionnelle en tant que vendeur et responsable de magasin dans le prêt-à-porter, Daniel a ouvert une enseigne sous une petite franchise il y a presque 10 ans, en plein centre-ville de Tarbes, dans cette rue piétonne et normalement marchande Brauban. Après le Covid, Daniel quitte la franchise pour créer sa propre marque, Quartier Général. Sa cible au départ, les 15-25 ans, objectif proposer à un jeune public des vêtements de qualité à des prix attractifs, mais surtout les encourager à acheter en boutique et en ville. Daniel a tenu, mais aujourd'hui, il est en liquidation pour fermeture. Les clients achètent différemment et surtout depuis leur canapé avec leur smartphone. C'est en tout cas une des explications que Daniel pointe du doigt. Il nous raconte.
J'avais à cœur d'ouvrir à Tarbes parce que déjà, je suis né à Tarbes. Toute mon enfance, eh bien, je l'ai passée ici, au centre-ville, et donc ça me tenait à cœur de pouvoir faire quelque chose sur ce centre-ville tarbais. Effectivement, il y avait pas mal de clients, de personnes qui partaient, de clients potentiels qui partaient sur les zones commerciales périphériques. Mais je voulais proposer quelque chose d'authentique. Et comme je l'ai dit, avec des prix, avec de la qualité, des prix accessibles. J'ai commencé d'abord, là aujourd'hui c'est Quartier Général, mais à l'époque c'était une petite franchise qui s'appelait Island 5. On était une trentaine de magasins en France. J'avais besoin encore, pour lancer ma première entreprise, de passer par une petite franchise. Et Island 5 m'a donné cette opportunité et j'ai fait 6 ans avec eux. Suite au Covid, il y a beaucoup de boutiques Island 5 qui ont fermé en France. Et du coup, j'étais la seule boutique ouverte, une des boutiques Island 5 qui a marché le mieux en France. Donc, comme quoi, même dans le centre-ville Tarbes, on pouvait faire quelque chose.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être que c'est intéressant que vous nous disiez à quoi elle ressemblait, cette rue Brauban, quand vous vous êtes installée il y a un petit peu moins de 10 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, vous soyez contraint de mettre la clé sous la porte? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on est passé de l'un à l'autre? Mais d'abord, il y a 10 ans, à quoi elle ressemblait cette rue Brauban, dans laquelle en fait il y avait quand même beaucoup de commerces. Et on voit bien au fil des années que les commerces ferment. Hein, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes peut-être pas le dernier.
Alors effectivement, quand je suis arrivé ici, je choisis la rue Brauban tout simplement au début aussi. Ça a été un impact parce que je partais vraiment de rien. Hein. Par rapport au coût des loyers qui, sur la rue Maréchal Foch, était tout simplement inatteignable. Enfin, c'était impossible. Je ne pouvais même pas me permettre de payer ses loyers au tout début. Du coup, rue Brauban, j'avais cette possibilité, avec un loyer à peu près correct pour l'époque, et dans une rue où, comme vous disiez, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait quasiment aucun emplacement vide. Il y avait la boutique Lacoste, il y avait du Pareillon même qui faisait pour les enfants, il y avait un chocolatier en face, il y avait chaque emplacement de cette ma partie de la rue Brauban était rempli. Il n'y avait pas de locaux vides. Et aujourd'hui, c'est le contraire.
Alors, ils sont passés où? Les clients sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pour ma part, je n'ai pas été touché jusqu'à il y a 2-3 ans, puisque j'ai créé mon ancienne quartier général il y a 3 ans. Un peu plus tôt, il y a eu des boutiques qui ont commencé à fermer suite à l'explosion des ventes de prêt-à-porter sur Internet. Puis sur les grosses enseignes qui sont ouvertes pas forcément à Tarbes, mais à proximité, comme Pau. Il y a des clients qui allaient même sur Toulouse pour aller chez Primark. Puis après, il y a eu aussi les ventes Internet. Donc petit à petit, ça a commencé déjà à faire fermer des boutiques qui proposaient la même chose ailleurs, en fait, tout simplement.
Bon, mais pas avec les mêmes produits, hein, parce que votre combat, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que, effectivement, pour acheter chez vous, faut se déplacer, mais le produit n'est quand même pas le même.
Voilà, exactement. Mais ensuite, du coup, il y a 2 ans, c'est là où on a senti la différence, ou moi, à mon niveau, j'ai senti la différence, l'explosion des applications chinoises, Shine, Temu, et d'autres, Alibaba, bref, ont explosé jusqu'à ce qu'ils deviennent site numéro 1 en France. Mm. Et c'est là où, en fait, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, je cible quand même une grosse partie de ma clientèle qui est jeune. Toute cette clientèle, elle est connectée au smartphone. Et ils sont tous passés sur des applications chinoises avec des fabrications et de la qualité qui n'a rien à voir avec la nôtre, bien sûr. Avec des prix, quand je vends un jean déjà 40 euros, qui est de bonne qualité, je trouve qu'on est sur des prix déjà attractifs avec de la bonne qualité. Mais là, c'est du 10 euros le jean, c'est du 5 euros le t-shirt. Et forcément, je ne peux pas me battre comme ça. Mmh. Je ne peux pas me battre comme ça. Le combat que je mène pour de la qualité de la fabrication européenne, on ne la retrouve pas chez ces applications. C'est fabrication chinoise, haute intensité, pollution maximum.
Pour vous, en dehors du problème économique auquel vous devez faire face, il y a vraiment un problème d'éthique et d'écologie qui est là beaucoup plus général.
Bien sûr, bien sûr. Nous, on fait fabriquer en Europe. Et pourquoi j'arrive à avoir ces prix aussi attractifs? C'est que je passe par des circuits courts. Je vais directement au contact des usines. Et du coup, j'arrive à m'en sortir à des prix à 40-45 euros le jean au lieu de 100 euros sur la même qualité. Mais là, on va sur du made in China... avec une catastrophe au niveau de l'écologie. Shine, c'est 100 avions par jour, juste pour transporter les vêtements. En termes de production, ça pollue énormément. Les conditions de travail, elles sont désastreuses. Font travailler des personnes qui ne devraient pas travailler. Ça pollue. Lorsque le consommateur achète, il fait un panier, il va le porter quelque temps. Comme ce n'est pas qualitatif, il va le jeter. Ça va repolluer, il va reconsommer. Voilà, c'est une catastrophe écologiquement. Et c'est dommage, c'est que c'est l'avenir de la planète, elle est pour les jeunes, et c'est les jeunes eux-mêmes qui sont en train de se pourrir la planète et se pourrir leurs futurs emplois. Parce que quand j'ai des jeunes qui viennent, qui me demandent de bosser, et que moi je ne peux pas actuellement, puisque je vais fermer ma boutique, et que toutes les boutiques ferment, ils ne vont pas trouver non plus du travail dans cette tranche. Dans cette tranche-là.
Au cours de ces 2 ans, comment les choses ont-elles dégringolé pour vous? Vous me disiez avant de préparer cette émission que vous, avant d'enregistrer, que vous n'arriviez plus à vous sortir un salaire. Vous avez une employée. C'est quoi le quotidien ou le mois pour vous? Comment vous arrivez à vivre ou à survivre?
Mais actuellement, c'est très compliqué. C'est pour cela que je prends ma décision. C'est des sacrifices en termes de temps. Je compte pas mes heures, hein, ça doit être du 70 heures semaine. Du coup, comme j'ai moins d'activité, j'essaie toujours de trouver d'autres solutions. Donc, je passe du temps. C'est des sacrifices aussi en termes de temps et de temps personnel, de temps avec ma famille. Et donc, j'essaie ça sur un an et demi à faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, je me vois dans l'obligation.
Aujourd'hui, vous n'avez pas de salaire. Vous ne pouvez pas vous sortir un salaire.
Non.
Et depuis quand?
Disons que je me sortais des petits, même pas du SMIC, hein, c'est minimal. Et là, depuis quelques mois, c'est compliqué de sortir un salaire parce que entre les charges, ma salariée, mon loyer, l'électricité, le manque de fréquentation, les fournisseurs, il n'y a pas de magie.
Il y a quelques jours, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Gatel, était à quelques pas de votre boutique de rue Brohoban, à quelques pas de quartier général. Elle visitait une bâtisse dans laquelle des locaux commerciaux et des loyers vont être créés. Elle a beaucoup parlé de toute la politique qui est mise en place pour ramener non seulement des consommateurs, mais des habitants en centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça s'est passé à quelques pas de chez vous, et vous êtes en train de fermer. D'autres commerçants autour de vous ont fermé aussi. Vous vous dites quoi? C'est une bonne nouvelle, mais c'est trop tard, j'y crois pas. Qu'est-ce que vous vous dites?
C'est exactement ça, ce que j'allais vous dire. C'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas une fois que quand c'est vidé de son sang qu'il faut agir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on agit une fois que toutes les boutiques sont fermées. Aujourd'hui, comment voulez-vous attirer des enseignes au centre-ville de Tarbes si les 3/4 des boutiques sont vides? Oui. Elles ne vont pas vouloir venir. Oui. Il fallait agir avant. Je pense que
À qui la faute, au fond ? C'est un problème politique, c'est à cause des consommateurs, c'est un problème de structure économique. On entend bien que vous en avez gros sur le cœur et on comprend, mais est-ce que vous vous pointez du doigt un coupable, un responsable ?
Alors, il y a plusieurs, pour moi, responsables, tout simplement. Je pense que sur le dernier mandat, la dernière municipalité, il ne s'est rien passé. Et du coup, là, la nouvelle municipalité essaye de faire des choses, mais forcément, il est trop tard.
Mais qu'est-ce que vous auriez aimé que la municipalité fasse ? Baisser vos loyers ? Qu'est-ce que vous auriez attendu ?
Ce genre d'initiative qui est en train de se passer, de remettre de l'habitation au centre-ville, un peu plus d'animation, un peu plus de communication, de la distraction pour les jeunes. Après, derrière, ça consomme. Après, ça va se balader en ville, ça va consommer. Le problème, c'est que maintenant, même si on met ça, il n'y a plus de boutique. C'est trop tard. Et autre chose, je pense que la clientèle Tarbes y est forcément pour quelque chose. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, les commentaires, il y a tout le monde qui parle des prix des loyers, des parkings, des animations. Mais moi, le loyer, je serais capable de payer plus cher si j'avais plus de clients.
Oui.
Ça ne me dérange pas. J'ai mis en liquidation ma boutique. En une semaine, c'était milieu du mois, les gens ne venaient pas toucher leur salaire, hein, milieu de mois. On a fait en une semaine ce qu'on n'a jamais fait en 10 ans.
Donc attendez, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi ? Les gens voient que vous allez partir et donc là tout d'un coup ils s'affolent, ils s'agitent ou peut-être qu'il y a aussi un mouvement de solidarité ? Comment vous traduisez ça ? Ils n'étaient pas là et puis tout d'un coup ils débarquent.
Alors il y a une partie, c'est un élan de solidarité parce que je vois les clients fidèles qui viennent. Donc eux, il n'y a pas de souci puisqu'ils venaient de toute façon. Mais en fait, vous voyez que dans ces cas-là, la boutique elle est remplie, il y a du monde partout. Il ne s'agit plus de problème de parking. Il ne s'agit plus de problème de loyer, il ne s'agit plus de problème d'animation, puisque les gens viennent.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Daniel ? Là, vous êtes en liquidation, donc dans les semaines qui viennent, jusqu'à fin juillet, je crois, vous bradez tout ce que vous avez dans votre boutique. Ça veut dire que tout doit disparaître. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour vous ?
Pour moi, déjà qu'on est entrepreneur, je ne sais pas si les gens sont au courant. Moi, je vais fermer mon entreprise, je n'ai pas le droit à 1 euro de chômage, pas 1 euro de RSA. Donc déjà, je vais me retrouver avec aucun salaire. J'espère faire de cette liquidation quelque chose qui fonctionne pour me donner quelques mois pour souffler. Or, j'ai quelques contacts des projets qui vont se faire, je pense. Je pense que je vais trouver, avec mon expérience, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, je suis quelqu'un qui est résilient et qui n'a pas peur de travailler, donc... Je vais tout donner, je vais trouver quelque chose. Je trouve juste injuste qu'un entrepreneur, quand il a pendant 10 ans payé des impôts, payé des charges à titre professionnel et personnel, se retrouve déjà avec la fermeture, c'est quand même quelque chose de lourd à porter, moralement. Et derrière, en plus, on se retrouve sans salaire. Voilà.
Ma dernière question, Daniel, c'est si dans 10, 15 ans, vous êtes encore jeune, vous voyez que le centre-ville a retrouvé le dynamisme pour lequel les élus et l'État semblent travailler aujourd'hui, est-ce que vous dites, je reviendrai, je recommencerai, ma marque Quartier Général, elle aura à nouveau de la vie et de l'avenir dans ce lieu, en centre-ville de Tarbes, puisqu'on a bien compris que vous tenez aussi à cette identité tarbaise.
Bien sûr, hein. De toute façon, dans mon prochain métier, je serai toujours sur Tarbes. J'ai une grosse attache à cette ville et j'ai à cœur aussi qu'elle revienne comme elle était quand j'étais plus jeune. Revenir, c'est une question que je me suis posée, forcément, et j'ai eu tellement de questions à me poser récemment. Disons que quand je me suis lancé, j'avais 25 ans. Je ne sais pas si j'aurai encore la force et le dynamisme. Plus tard, dans 10 ans, quand j'aurai maintenant, j'ai 40 ans, donc quand j'aurai 50 ans, de lancer encore une boutique. Après, je ne me ferme jamais aucune porte. Franchement, tout est possible dans la vie, donc je ferme aucune porte, il n'y a pas de souci. Merci.
Tout est possible dans la vie. Voilà le témoignage de Daniel Novaïs des Almeida qui tente désormais de faire survivre sa marque QG via les réseaux sociaux. Mais vous l'avez bien compris, ce qu'il veut lui, c'est une boutique, une vraie, pour faire de la vente en centre-ville dans Tarbes, pour voir les clients. Allez donc y faire un tour avant que la boutique soit définitivement fermée. C'est rue Brohoban, en plein centre-ville de Tarbes.
Radio Présence à Pau. 96.
Et Anne-Rose, dans 3 minutes, on reste à Tarbes.
Oui, effectivement, puisque j'ai interrogé le directeur des routes du département, Bernard Duclos, qui va nous dire si, oui ou non, les chantiers sur les routes départementales sont programmés en fonction du calendrier et des étapes du Tour de France. Grande question.
Et la réponse, c'est juste après le journal régional. 12h30 sur les pendules de Radio Présence. C'est Clémence Roux qui nous rejoint pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi, l'ensemble des départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Lot sont toujours placés en vigilance rouge canicule. L'Aveyron et l'Ariège sont tous deux placés en alerte orange. Cet épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle a été classé comme similaire à celui de la canicule d'août 2003 par Météo France. Les différentes préfectures ont mis un plan d'urgence en action, les établissements scolaires restent ouverts, mais les parents ont la possibilité de garder leurs enfants chez eux. Au niveau des lycées, tous les examens sont maintenus. À Auch, la Croix-Rouge a doublé ses maraudes pour porter secours aux personnes les plus exposées à la chaleur. Les maraudes, habituellement organisées 2 soirs par semaine, tournent désormais matin et soir, 7 jours sur 7. Ce sont avant tout des maraudes d'hydratation, avec distribution d'eau fraîche, brumisateurs et boissons glacées, pendant que 2 bénévoles par intervention surveillent les signes de malaise et alertent les secours si besoin. Attention, si vous prenez la route de nuit depuis hier soir et ce pendant 4 nuits consécutives, plusieurs portions du périphérique de Toulouse sont fermées à la circulation entre 21h et 6h du matin. Vinci Autoroute réalise plusieurs travaux de maintenance, notamment au niveau des glissières de sécurité, des panneaux de signalisation et du système de vidéosurveillance. Cette nuit, la fermeture s'effectuera au niveau du périphérique extérieur, en direction de Bordeaux, entre Croix-d'Orade et Sesquer. L'incendie ayant ravagé 30 hectares de végétation à Nantes a été maîtrisé hier en fin de journée. D'importants moyens ont été engagés dans le sud d'Aveyron, près de Millau, jusqu'hier matin, mobilisant 85 pompiers et plusieurs avions bombardiers d'eau au plus fort du sinistre. Le feu est désormais fixé, mais reste sous surveillance. Pour faciliter le stationnement des vélos en centre-ville de Cahors, 2 nouveaux abris vélos ont été installés dans le quartier des Bardennes. Ils sont situés rue d'Edrin et rue Blanqui. L'objectif est de permettre aux habitants qui ne possèdent pas d'espace pour stationner leurs vélos de les déposer dans des boxes sécurisées. Pour en bénéficier, les habitants doivent habiter le Grand Cahors et souscrire à un abonnement annuel de 20 euros. Déjà propriétaire du domaine de Montjoie à Ramonville, près de Toulouse, Hubert Fort s'implante dans Tarn-et-Garonne en rachetant le fameux moulin de Moissac. Cet établissement emblématique, bâti au XVe siècle, est en pleine rénovation pour un coût d'1 million d'euros. Les effectifs devraient passer de 22 personnes aujourd'hui à plus de 25 en 2027. Enfin, les courses hippiques font leur grand retour à Lannemezan. Dès demain, l'hippodrome ouvre les fêtes de la ville avec 3 ateliers et animations gratuites pour les enfants, en partenariat avec la société de course Lannemezan-Luchon. À partir de midi, une restauration sera mise en place pour profiter de cet événement annuel, tout en affrontant les fortes chaleurs. L'occasion de découvrir la nouvelle fresque qui orne le bâtiment, mais aussi les nouvelles installations du clubhouse.
Merci à Clémence Roux. Voilà, retour de l'info à 13h sur notre antenne avec l'actualité nationale et internationale. Et dans cette émission, dans une 20aine de minutes, on parlera de Lourdes avant et après les apparitions avec les nombreux auteurs qui ont séjourné et écrit sur Lourdes. Ce sera tout à l'heure avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes.
Présence sur le COS 106.5.
Pour le moment, dans cette émission, on part sur les routes du département des Hautes-Pyrénées avec vous, Anne-Rose.
Ça ne vous a pas échappé, les routes départementales des Hautes-Pyrénées se font une petite beauté un peu partout en ce moment. À croire que le revêtement genre goudron, c'est comme les fleurs des champs, ça pousse avec le soleil à l'approche des vacances et à l'approche du Tour de France, car on ne peut pas s'empêcher de se demander si le calendrier des chantiers de réfection des routes du département des Hautes-Pyrénées n'est pas arrêté selon le circuit de la compétition. Après tout, ça n'aurait rien d'étonnant, puisqu'il faut bien que les 184 coureurs pédale en toute sécurité. Mais que nini, nous dit Bernard Duclos, directeur entretien et exploitation des routes du département. Les chantiers sur les routes sont prévus des mois en amont, complètement indépendamment des étapes du Tour de France. Bernard Duclos.
Effectivement, le Tour de France pour le département des Hautes-Pyrénées est une vitrine qui, chaque année, passe dans notre beau département. Et donc, c'est vrai qu'on est... on va dire habitué à recevoir chaque année une ou voire plusieurs étapes, et ce qui est encore le cas cette année où effectivement le 8 et le 9 juillet nous recevrons d'abord une étape Lannemezan-Pau avec un passage par le secteur du Manuac, Trissuraïs, Manuac, Maubourguet. Ben, tout simplement là c'est pour faire un clin d'œil aux villes départ qui avaient eu lieu, que ce soit sur Tri, sur Castelnau ou Castelnau-Manuac. Et le lendemain, départ de Pau avec une arrivée arriver sur Gavarnie et en passant par le col d'Aspin et le col du Tourmalet. Bon, ceci étant dit, effectivement, alors, nous n'avons aucune, on va dire, directive par rapport à l'état notre réseau routier, par rapport à l'organisateur du Tour de France. Mais effectivement, nous essayons de mettre tout en œuvre pour rendre, on va dire, nos routes le plus sécuritaires possible par rapport au Tour de France. Je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect entretien de nos dépendances, c'est-à-dire par exemple le fauchage, le balayage, où là effectivement nous allons mettre tout en œuvre pour entretenir avant le passage du Tour de France nos dépendances vertes et ainsi qu'avoir, on va dire, un état des routes satisfaisant. Pour autant, notre programme de renouvellement de revêtement de la couche de roulement n'est pas, on va dire, calé sur le passage du Tour de France. Tout simplement, nous avons une politique routière qui a été d'ailleurs validée par nos élus, avec un renouvellement tous les 12 ans sur les axes structurants, avec des techniques à chaud type enrobé. Et sur les réseaux secondaires, nous avons un taux de renouvellement entre 15 et 18 ans, avec des techniques plus souples qu'on appelle des enduits de surface. C'est les fameux gravillons que l'on retrouve sur nos chaussées et qui sont souvent, on va dire, décriés par les cyclistes avant qu'ils soient balayés.
Donc ça, il en faut pas pour les coureurs du Tour de France.
Ah, ils vont emprunter le Tour de France des itinéraires secondaires où il y a ce type de technique. Mais effectivement, nous allons quand même balayer, puisqu'entre le moment où on met en œuvre les gravillons et le balayage, il faut attendre à peu près 10 jours, puisque c'est le passage des véhicules qui font que les gravillons rentrent dans le bitume. Donc c'est une technique, voilà. Et effectivement, là, on va balayer quand même avant le Tour de France.
Alors vous nous dites, Bernard Duclos, que les travaux sur les routes sont de toute façon prévus dans le cadre d'un cycle de réfection et de renouvellement de la voirie et des chaussées, indépendamment du Tour de France. Vous nous confirmez que ce n'est pas le Tour de France qui vous dit on passe par là, donc il faut que les routes soient refaites absolument à telle date.
C'est exactement ça. C'est, typiquement, là, cette année, on fait par exemple une section entre Luz et Barège. Cette section avait été faite en 2013 suite au cru. Là, ça va faire 13 ans, donc on est vraiment dans le taux de renouvellement. Alors effectivement, là, c'était prévu de le faire cette année. Le Tour de France passe très souvent par le col du Tourmalet, donc voilà. Et aussi, on essaie de le faire avant le passage quand même. On aurait pu très bien le faire en septembre, mais bon, là quand même, on essaie de le faire avant le passage du Tour de France pour, on va dire, avoir aussi l'aspect qualitatif de nos revêtements.
Alors, il y a des routes quand même, des axes pour lesquels on se dit ils n'étaient pas en si mauvais état que ça. Pour vous, c'est quoi les signes qui font qu'une route a besoin, nécessite un embellissement, des travaux? Quels sont les signaux qui vous alertent en vous disant, là, il faut vraiment que cet axe-là, il rentre dans notre plan? Si ce n'est pas le Tour de France qui vous dicte, qu'est-ce qui vous dicte?
Donc techniquement, en fait, nos routes sont, on va dire, scannées, je dirais, avec un système d'intelligence artificielle, avec un passage de caméras, de films que l'on sur nos routes, et qui nous identifie, on va dire, la qualité de la route ou s'il y a des fissures qui apparaissent, par exemple. Et à partir de là, parce que une chaussée, dès que, on va dire, elle est plus étanche, donc l'eau pénètre et c'est là où la route peut se détériorer. Donc des fissures, on peut les réparer, on fait du colmatage des fissures, on le voit des fois sur nos routes. Et à partir de ces indices, on va dire, c'est là où on prévoit de refaire la route pour, on va dire, étancher notre route. Quoi.
Donc ça fait combien de kilomètres de route dans le département qui sont équipés de ces petits outils qui permettent de signaler si une route est en mauvais état?
En fait, c'est pas la route qui est équipée, c'est tout simplement un téléphone qu'on embarque dans un véhicule et on sillonne l'ensemble de nos 3000 km de route, donc on sillonne et c'est avec l'intelligence artificielle, donc le téléphone filme au passage du véhicule notre route et c'est à l'issue de l'expertise de ces images que l'on définit, qu'on voit s'il y a nécessité aussi de repasser ou pas pour refaire le revêtement. complètement.
Sur ces 3000 km de route départementale dans les Hautes-Pyrénées, combien de kilomètres font l'objet de travaux chaque année ?
En moyenne, nous réalisons environ 50 km sur le réseau structurant, chaque année à peu près, sur le budget, et 140 km sur le réseau secondaire.
Alors, on imagine en essayant d'équilibrer d'une vallée à une autre, d'un territoire à un autre, comment vous le décidez ?
Ça s'équilibre, on va dire, naturellement, parce que bon, par rapport au taux de renouvellement, ça s'équilibre plus ou moins. Mais c'est vraiment la nécessité de refaire ou pas qui nous dicte dans les choix de la programmation.
Le budget alloué, il est globalement toujours le même ou il y a des restrictions de ce côté-là d'année en année ?
Alors aujourd'hui, le budget, enfin, ces dernières années, est relativement stable. On a la chance, on va dire, d'avoir un budget, on va dire, qui est plutôt serein et qui permet à la collectivité de maintenir un niveau d'investissement important. Et cette année, c'était une volonté vraiment de notre président et de l'Assemblée départementale. Cette année, nous avons 86 millions d'euros d'investissement pour l'ensemble de la collectivité, pas que pour les routes. Mais pour les routes et mobilité, ça représente 33 millions d'euros d'investissement sur le département.
Alors là, on parle de travaux, de réfection, d'embellissement et de marquage aussi. Ça fait partie, ça, des travaux sur les routes ?
Tout à fait. Donc, dans ces 33 millions, bien sûr, on y retrouve ce que je vous disais, donc les revêtements de nos routes, mais les ouvrages d'art, les dispositifs de sécurité, des rectifications ponctuelles aussi de virages, d'aménagements localisés. Donc, c'est un tout. La peinture aussi, qui est importante pour le Tour de France. Et là, par contre, contrairement à ce que je pouvais vous dire sur les revêtements, là, pour le Tour de France, effectivement, on refait la peinture systématiquement sur l'itinéraire du Tour de France.
Voilà. Donc là, rien que ça fait déjà pas mal de kilomètres, puisque les deux étapes là concernées cette année sont quand même importantes.
Oui, tout à fait. Là, c'est un linéaire qui est relativement important, mais qu'on le refait systématiquement là, effectivement, avant le passage du Tour de France.
Combien d'agents sont mobilisés pour les routes du département ?
Alors, aujourd'hui, sur la direction que je dirige, nous avons 280 agents d'exploitation qui sont sur le terrain.
Ça veut dire vraiment sur les chantiers, là ?
Alors, sur les chantiers, il y a les chantiers d'enrobés, de revêtement sur le réseau structurant est réalisé par des entreprises privées. Par contre, sur le réseau secondaire, nous avons une structure qui s'appelle le parc routier, avec une section exploitation, qui sont en capacité de faire des travaux de revêtement d'enduit, mais là, on est plutôt sur le réseau secondaire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le Tour de France, effectivement, nous avons du personnel qui est mobilisé le jour de l'étape, pour sécuriser l'itinéraire, c'est-à-dire protéger avec des bottes de paille, par exemple, tout ce qui est îlot directionnel et certains mobiliers en agglomération, des choses comme ça. Donc, c'est nos équipes et qui sont positionnées tout au long de l'itinéraire pour intervenir aussi sur du balayage ou toute intervention nécessitant, on va dire, l'action de nos agents.
Donc là, c'est là qu'il y a une grosse collaboration avec la direction du Tour de France.
Oui, effectivement, là, en fait, on travaille avec l'Association des départements de France, qui sont présents sur les 3 semaines du Tour de France, avec des agents des collectivités du département. Donc, nous, par exemple, au département des Hautes-Pyrénées, on a un agent qui est détaché sur 3 semaines dans cette organisation. Et donc, le jour de l'étape, effectivement, il y a une collaboration entre le département de France et, on va dire, les locaux de l'étape, avec ce qu'on appelle un monsieur route qui suit, on va dire, et qui est un peu garant de la sécurité en termes routiers le jour de l'étape.
C'est pas vous, monsieur route ?
Non, là, c'est mon chef de service, c'est un collègue à moi, monsieur Gaillemetou, qui sera monsieur route pour l'étape Pau-Gavarnie.
Alors, j'ai encore deux questions. La première de ces deux questions, elle est liée au Tour de France, mais pas seulement. Je voulais vous demander, Bernard Duclos, vos conseils ou vos directives à l'égard des usagers des routes du département. Alors, peut-être en particulier pendant le passage du Tour, hein, puisqu'il y a les coureurs qui sont les premiers usagers, mais il y a tous les gens qui vont être autour. Et puis, durant tout l'été, globalement, enfin, les usagers des routes, ce sont aussi tous les gens qui se promènent en voiture, en vélo et parfois même en trottinette. Quels sont vos conseils ?
Alors, pour les étapes du Tour de France, le conseil, déjà, c'est de bien regarder en avance les heures de passage de la caravane publicitaire et du Tour de France. Bon, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, la commune de Mezan, qui est ville de départ, a produit un flyer et communique, on va dire, sur les interdictions de stationnement ou pour rentrer sur l'Anne-Mezan, effectivement, ça sera difficile. Donc, d'anticiper au mieux ces déplacements, qu'ils soient des déplacements liés au passage du Tour de France ou, on va dire, à titre personnel, si vous devez, on va dire, vous déplacer le jour des étapes du Tour de France. Donc, bien anticiper son départ. Sur les bords de route, quand même, globalement, on s'aperçoit que les gens sont assez respectueux et par rapport à la sécurité, bien sûr par rapport au passage des coureurs, mais avant il y a aussi la caravane publicitaire qui est très attendue par les familles qui sont en bord de route. Donc là, bien sûr, des messages de sécurité par rapport aux enfants, aux animaux aussi. De vraiment être vigilant par rapport au passage de cette grosse organisation qui est le Tour de France.
Voilà. Peut-être un mot du coup sur les autres usagers pendant tout l'été, parce qu'on voit entre les caravanes, les tracteurs aussi, parce qu'il faut bien que les agriculteurs fassent leur travail, les caravanes, les tracteurs, les voitures, les vélos, les trottinettes, comme je disais, souvent il fait beau, mais sur les routes c'est un peu le bazar. Quels sont vos conseils de sécurité?
Les conseils, c'est certes la vitesse. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a un département très touristique avec le secteur montagne, qui est aujourd'hui une belle vitrine aussi pour nos deux roues, puisque après le passage du Tour de France, on a du tourisme de roues, les vélos, et des motos aussi, qui sillonnent, on va dire, nos beaux cols. Donc là, le message de sécurité, ça va envers les deux roues, parce que souvent, ils essaient d'imiter les coureurs qu'ils ont vu passer quelques jours avant en coupant des virages ou des choses comme ça. Donc, respecter, on va dire, un peu savoir qu'il y a beaucoup d'usagers, que ce soit des véhicules, effectivement, ça peut être des engins agricoles, les camping-cars, et puis toutes les mobilités douces.
Nos routes, elles sont dans l'état qu'il faut pour rendre les choses les plus sécurisées possible.
Oui, franchement, je pense qu'on a un réseau routier de qualité dans les Hautes-Pyrénées qui nous permet, on va dire, d'assurer au maximum la sécurité de nos usagers.
Voilà. Et un dernier mot quand même, Bernard Duclos, sur les agents qui travaillent en ce moment par les fortes chaleurs. Probablement, on ne peut pas ne pas en parler, probablement qu'il y a des horaires décalés, qu'ils ne sont peut-être pas sur les routes en train de refaire le goudron à 14h quand il fait 43 degrés.
Non, tout à fait. Depuis qu'on est passé depuis hier en vigilance rouge, donc nous avons pris des dispositions. Effectivement, nos agents commencent à 6h du matin pour finir aux alentours de 13h30. Pour, on va dire, travailler le plus à la fraîche possible, même si déjà en fin de matinée les températures grimpent, mais il en vient de la sécurité de nos agents et effectivement nous avons pris cette disposition pour les jours à venir là, pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, les agents du département qui s'adaptent en raison de la canicule. En tous les cas, si les chantiers sur nos routes pyrénéennes ne sont pas fixés en fonction du Tour de France, comme l'affirme Bernard Duclos, je me demande quand même si ce ne serait pas le Tour de France qui fixerait ces étapes en fonction des dates des chantiers sur nos chaussées. Qui sait ?
Merci, Anne-Rose Jankovic.
Ça vous fait rire.
Présence à Cajarc, 97.7.
Allez, dans un instant, on va repartir en 1858, Lourdes, avant et après les apparitions, avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Elle va évoquer tous les auteurs qui ont séjourné et écrit sur Lourdes. Ils sont très nombreux. Merci, Anne-Rose Jankovic.
Merci à vous.
Bon appétit.
Bon appétit également et à la semaine prochaine.
Et bonne route.
Non, à jeudi.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Paroles d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Balade en pays de Lourdes. En partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Aujourd'hui, on va parler de Lourdes avant et après 1858 avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Avant les apparitions, Lourdes était finalement une ville de passage. On s'arrêtait pour faire une pause avant de rejoindre les villes thermales.
Exactement. Alors Lourdes, avant 1858, c'était plutôt considéré comme une ville de passage. En fait, elle était tout simplement située à un carrefour sur la route impériale qui menait vers les thermes. Donc les thermes plus haut en montagne, qui sont encore connus aujourd'hui, hein, comme les thermes, les eaux de Cotteret, de Luz, de Barège. Et voilà, Lourdes à l'époque voyait passer pas mal de diligences et de grands noms, notamment de la littérature, qui se rendaient prendre les eaux dans les Pyrénées.
On parlera de ces auteurs dans un instant, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, les montagnes ne sont plus vues comme un lieu dangereux, mais plutôt une vision plus poétique.
Exactement. En fait, ça va être au tout début du 19e siècle, donc l'éveil d'un courant littéraire et artistique de façon générale, c'est le romantisme. Le romantisme, et qui va avoir également naître à cette époque, à cette même époque, en fait, vont coïncider aussi la naissance du pyrénéisme. Le pyrénéisme, ça va être un petit peu une vision globale de la montagne. Voilà, exactement comme tu le disais, qui ne va pas être la montagne vraiment inhospitalière comme elle était vue autrefois, mais une montagne qui va être décrite comme un paysage enchanteur, grandiose, où on va venir prendre l'air avec des points de vue vraiment de nature vraiment poétisée, romantisée. Donc ces deux courants-là vont se rencontrer, et l'un des celui qui est considéré en fait comme le père du pyrénéisme, Louis Ramon de Carbonnière, qui est de passage à Lourdes, il ne fait que passer à cette époque-là, en 1788 déjà, écrivait que à Lourdes, on est à l'entrée des montagnes, la nature commence à revêtir des formes plus âpres, les roches se resserrent de tous les côtés. Et il y a cette vision aussi qu'il a, Louis Ramon de Carbonnière, du château fort, donc un vieux château fort médiéval autrefois qui n'avait pas été encore restauré. Et on imagine très bien cette vision quand on arrive de la route de Pau ou de Tarbes avec le vieux château médiéval enserré autour des montagnes. C'est vraiment une vision assez justement typique de ce romantisme.
Autre personne qui est venue à Lourdes, c'est Georges Sand, qui venait faire des visites spéléologiques.
Exactement. Alors Georges Sand et bien d'autres. Alors Georges Sand, voilà, française, mais il y avait aussi énormément d'aristocrates anglais à l'époque. C'était à la mode. Ils devaient faire, pour parfaire leur éducation, ces jeunes aristocrates, leur grand tour. Donc en général, ils visitaient les grands classiques en Europe. Donc la Grèce, l'Italie, et à Lourdes et à proximité, en fait, dans les Pyrénées, ils avaient leur camp de base à Pau, c'est bien connu, les Anglais étaient plutôt bien, avaient trouvé un bon terrain à Pau pour y vivre et passer leur séjour, leurs vacances. Et donc ces jeunes aristocrates venaient souvent à Lourdes parce que justement, avec l'aspect de ce château fort, ils pouvaient faire leur lithographie, leur peinture, leur poésie. C'était assez enchanteur, c'était vraiment un cadre idéal. Et pouvait faire du tourisme, justement. Et c'est ce que fait, en fait, Georges Sand. Quand elle visite Lourdes le 27 août 1825, elle a seulement 21 ans. Et elle vient spécifiquement à Lourdes pour visiter les grottes du Loup et des Espélugues. Elle va passer plusieurs jours à arpenter ces grottes avec un guide local.
Autre écrivain qui est venu à Lourdes, c'est Victor Hugo.
Exactement. Alors, Victor Hugo, en fait, il va avoir une phrase très brève. Il va plus parler, en fait, du cirque de Gavarnie. Là, il va vraiment parler beaucoup du cirque de Gavarnie et plus loin dans la vallée. Mais sur Lourdes, il va avoir juste une petite phrase dans son carnet de voyage qui va être écrite, très concise, mais qui veut tout dire. Lourdes, arrivée magique.
Voilà,
et c'était en l'été 1843. Pour la petite anecdote, c'était seulement 6 mois avant la naissance de la plus célèbre lourdaise, Bernadette Soubirous.
Voilà, tout ça qui nous amène à parler maintenant des apparitions et des auteurs qui sont venus après 1858.
Exactement. Et bon, le plus connu après les événements de 1858 qui va venir à Lourdes, c'est Émile Zola. En fait, il va être intrigué parce que Lourdes, entre-temps, c'est devenu un phénomène mondial. Ça attire les intellectuels, les écrivains, les scientifiques. Voilà, ça fascine énormément. Et Émile Zola, il vient à peine à cette époque de terminer son immense écrit, son épopée d'une vie, Les Rougon-Macquart, et il va venir à Lourdes avec cette approche très naturaliste qu'il a. Finalement, il porte un regard très rationnel sur les événements, et c'est ce qu'il va intégrer dans son roman qui est publié ensuite en 1894, Lourdes.
On termine avec vous cette chronique, Julie, avec deux anecdotes. Première anecdote, c'est un des tout premiers guides touristiques.
Tout à fait. C'est l'un des premiers guides qui a été écrit par un visiteur régulier aussi des Pyrénées, et notamment pour le thermalisme. En fait, c'était un guide à destination des curistes dans la région. Quand ils avaient terminé leurs soins, ils pouvaient aller visiter donc la région. Et en 1834, la première recommandation dans ce guide, c'était de voir à Lourdes la grotte du Loup, qui voilà. N'existe plus aujourd'hui.
Voilà pour la première. Et la deuxième anecdote va nous amener à la bibliothèque de Washington.
Exactement. En fait, comme on le disait, après 1858, Lourdes, qui est devenu ce phénomène mondial, va inspirer énormément. Il va y avoir énormément d'écrits, de récits qui vont être produits. Et la plus grande bibliothèque du monde, qui est réputée comme telle, la bibliothèque du Congrès de Washington, recenserait autant de livres, voire plus, sur Lourdes que sur d'autres villes de France comme Toulouse ou Bordeaux.
Eh bien voilà, c'est sur ces deux anecdotes que se termine cette chronique balade en Pays de Lourdes avec vous, Julie. Un grand merci, on se dit à une prochaine fois.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Instead, never mind.
Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
Présence à Souillac 104.8
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Morosité au Royaume-Uni pour les 10 ans du Brexit. Une large majorité de Britanniques considèrent que